Donc, ravi de vous voir à cette table ronde qui s'intitule « Le Camus du percolateur ». Donc, avant d'expliquer l'origine du titre, je vais présenter les différents intervenants. Donc, tout d'abord, Denis Vidal. Donc, c'est un chercheur, anthropologue, c'est ça ? Voilà. Qui s'est intéressé à l'Inde du Nord, comme ça, et qui s'intéresse à l'anthropologie et aux questions liées à l'appropriation des techniques. Et donc, en 2012, vous avez aussi publié un livre sur, qui s'appelle « Robots étrangement humains ». Donc, voilà. Milad Douéoui. Alors, est-ce que je prononce bien votre nom ? Bon. Donc, historien des religions et titulaire de la chaire d'humanisme numérique. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est quelqu'un qui étudie l'évolution de la société avec le numérique, les transformations des nouvelles technologies dans notre relation à l'écrit, au savoir numérique. Donc, en fait, de s'intéresser à tout, au numérique comme culture et pas simplement comme technique. Alors, ensuite, donc, du côté des auteurs maintenant, donc Anne Lecky, auteur des chroniques du Ratch, paru chez J'ai lu et traduit par Patrick Marcel, donc chez Nouveau Millénaire, J'ai lu. C'est une trilogie de space opéra qui décrit une civilisation complexe utilisant des intelligences artificielles qui a une sorte de conscience distribuée dans des individus. Alors, ces romans, donc Justice l'ancillaire et le reste, ont obtenu de nombreux prix, notamment le prix Hugo en 2014 et le prix Arthur C. Clarke la même année. Et elle vient d'obtenir le prix Locus pour le dernier roman de la trilogie. Enfin, Anasta Robinets, donc auteur qui a fait aussi comme Anne Lecky de nombreux métiers avant de se mettre à débuter sa carrière littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce qu'elle a écrit, il y a une confrontation du surnaturel et du contemporain, notamment dans la recrudescence du froid. Et le roman qui, parmi les plus récents, c'est Le Vivant, aux éditions Mirobol, où on a une humanité formant une entité connectée et régie par un code. Donc voilà pour présenter les différents intervenants. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer le titre de cette table ronde. Alors, pourquoi Camus du percolateur ? En fait, je vais commencer par quelque chose qui est la question de l'animisme. Et en fait, il y a une théorie qui est contestée depuis, et il y a beaucoup d'éléments sur la recherche qui contestent ça, mais je vais partir de ce point de départ. C'est la théorie de Jean Piaget sur le fait qu'il y a une certaine tendance, et notamment chez les enfants, à concevoir les choses comme étant vivants. Donc c'est une sorte de forme primitive de la causalité. Et Piaget disait que c'était un stade dans le développement psychologique de l'enfant. Donc pour l'enfant, il y a un monde peuplé d'êtres animés. Donc on peut dire que ça s'arrêtait à l'enfance. Il y a beaucoup d'éléments actuels qui montrent que, même les adultes, nous avons un rapport identique avec les machines. Par exemple, il y a des études qui montrent que certains remercient les distributeurs automatiques de billets. Donc, ils remercient la machine. Et au Japon, il y a encore une étape supérieure. Par exemple, il y a des machines, des robots chiens de Sony qui s'appellent les iBot. Donc, c'est des chiens électroniques, donc des robots qui ont débuté dans les années 90, je crois, et qui sont plus mis en vente. Mais les propriétaires de ces machines essaient de continuer à les faire vivre, donc à les réparer. Puis parfois, on n'arrive plus à réparer ces robots. Et donc, au Japon, il y a même des cérémonies funéraires pour rendre hommage à ces animaux disparus, donc ces robots disparus, comme on ferait pour des animaux de compagnie. Donc, la première question que je vais poser à tout le monde avant d'être plus précis sur chacun des intervenants, c'est finalement, est-ce que les robots nous font redevenir enfants ? Qui veut commencer ?
euh, La réponse est non. C'est tout, tu ne demandes que ça. Bon, ça. Ou il faut un tout petit peu. Non, on va laisser. Non.
Moi, je suis d'accord avec mon collègue. Non. Par contre, je dirais, c'est plutôt l'enfance de quelque chose qui se lance, mais ce n'est pas notre enfance à nous.
Alors, vous pouvez préciser un peu.
Oui, moi, je crois les robots tels qu'on les conçoit, les perçoit, les intègre dans notre milieu social, on va dire, qu'on vienne le dire, que ce soit au Japon ou ailleurs, on va me remercier le distributeur. C'est plutôt cette enfance infinie de l'informatique qui est en train de devenir numérique et autre chose. Et je crois, de ce point de vue-là, il y a une enfance à très, très longue durée qui se met en place.
D'accord.
I would say that I would agree with the statement that it's a mistake to say that it's just children who do that. I know that in English, very often, when something won't do something, you say, oh, gosh, the door doesn't want to open. I think it's something that humans do. When we see something that moves, we want to attribute agency to it, and that makes us treat that thing like a person. And I actually think that's a good thing. It's a function of we see another person and we think about them as a human being and we want to think about what they want and what they're trying to do and have empathy with them. And that may be a mistake to do that with a door that won't open or to do that with the ATM. But I think it's a good sign that when a machine does something good for you, your first impulse is to say, oh, thank you for doing that. You want to respect that. I don't think it's a childish thing at all.
Я думаю, что это скорее не поведение не ребенка, а такое поведение скорее из каких-то древнейших времен. Например, вот у меня когда ломается автомобиль, я его могу вполне искренне уговаривать, перестать так делать, все-таки поехать дальше. Спрашиваю, на что он обиделся. Но я себя при этом чувствую не ребенком, а скорее таким вот из племени Тумба-Юмба, кем-то, кто борется со стихией. Со стихией. Ветры, снега.
Alors, moi, je ne pense pas que ce soit un comportement vraiment d'un enfant. C'est juste qu'on, c'est plus comme si on revenait à l'époque où voilà, on n'avait pas toutes ces machines. Moi, par exemple, quand ma voiture se casse, j'essaie bon de lui parler, de la rassurer. Effectivement, j'arrive à la refaire, à faire redémarrer et à surmonter cette épreuve. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit forcément un comportement lié à l'enfant, quoi.
I mean, it's a behavior of a member of a tribe, you know, like in ancient times. Like I try to ask the wind not to blow, that kind of thing. Not childish, but like Mumba, Yumba tribe.
On parle de tribu, donc je vais me tourner vers l'anthropologie. Mais plus exactement, en fait... Sur le rapport à l'inanimé, puisqu'on a parlé du Japon, en dehors de l'Occident, est-ce qu'il y a une particularité de l'Occident ou, est-ce qu'il y a d'autres rapports que ce que l'on a en Occident ?
Je crois qu'il y a... Il faut raisonner en deux temps. C'est-à-dire que quand on parle... par exemple, les roboticiens eux-mêmes ont tendance à penser, en Europe, en Occident, qu'ils sont mal acceptés... En Europe, et que par exemple le Japon ou l'Asie est une sorte de paradis technologique où tout se passerait bien pour eux. Je crois que la réalité est plus compliquée, mais elle est liée en particulier à une histoire de l'artisanat et par exemple de l'automatisation, de la robotique dans certains pays d'Asie. Donc je crois qu'il y a des différences, mais c'est des différences historiques avant d'être des différences culturelles. Il y a aussi quelques différences culturelles, mais justement, si je peux, c'est l'avantage des anthropologues, c'est qu'ils ont compris à quel point souvent ils avaient surévalué souvent les différences culturelles dans le passé. Et donc, c'est eux qui se méfient. Moi, quand je suis avec des roboticiens, je joue presque à contre-rôle, à dire ça n'a pas toujours aussi d'influence que vous le croyez. Et je crois que dans le peu d'études qu'on a fait sur, par exemple, l'attitude des Japonais, des gens comme ça, par rapport aux robots, c'est beaucoup plus ambivalent que la façon dont c'est présenté habituellement, même si c'est vrai qu'il y a il y a une plus grande complémentarité, quelque part, une moindre défiance.
Ambivalent dans quel sens ?
Mais c'est-à-dire que ça les inquiète quelque part tout autant. Je veux dire, il n'y a pas l'idée que on prend toujours un peu les mêmes exemples, certaines bandes dessinées, certains films, pour dire à quel point les Japonais auraient une évaluation positive de la robotique. Je crois que quand il y a des travaux un peu de fond, on montre une réalité beaucoup plus nuancée. Voilà.
On va se tourner là vers la philosophie, en fait. Pourquoi ? Parce que, et surtout l'Occident, c'est le fait que il y a une des théories sur l'esprit, c'est Descartes. Et notamment, un élément, je ne sais pas, Milad, si vous allez pouvoir nous rappeler, sur les théories de l'animo-machine. Et ce que cela dit aussi du rapport entre l'humain justement, et la machine, que ce soit un animal ou un robot. Est-ce que Descartes, finalement, n'a pas fixé un peu, en Occident, notre rapport aux machines ?
Je crois qu'il a fixé pour une certaine philosophie. Quand même, il y a Leibniz, il n'était pas très loin, et qui avait une idée complètement différente, et qui aujourd'hui, du point de vue des scientifiques, en tout cas, qui ont inventé un petit peu l'informatique, c'est leur héros. Et ils vont revenir vers plutôt Leibniz que plutôt du côté de Descartes, pour des raisons, à mon avis, importantes. Tout d'abord parce que si on regarde les thèses cartésiennes, on ne va pas faire un discours de philosophie, il y avait des difficultés à les faire passer par des modalités mathématiques. Alors que les thèses leibnitziennes étaient beaucoup plus accessibles à des modèles probabilistes qui ont accompagné l'émergence de la théorie de l'information. Un second aspect philosophique qui peut nous rapporter à la question qui nous intéresse ici, je crois aussi, c'est que la thèse leibnizienne, qu'elle soit celle de la monadologie ou d'autres, permet de donner accès à quelque chose qui peut être beaucoup plus proche. Je rappelle, c'était le premier à décrire un robot qui va pouvoir traverser une ville et descendre des escaliers. C'était en 1713, Leibniz avait décrit une machine qui va pouvoir un jour faire ça. Du coup, on voit quand même déjà autre chose. Mais ce qui est le plus important, la thèse leibnizienne permet de s'éloigner de la question de la conscience et de passer vers une question de l'autonomie du robot, de la machine. Et l'autonomie est beaucoup plus à même de permettre des formes de discussion, de fabrication, qu'elles soient mathématiques, culturelles ou autres, alors que la conscience, on a découvert, c'est le mur, et là, on est devant l'impossible.
Mais si je parlais aussi de Descartes, c'est-à-dire que il y a le petit point un peu précis, mais qui n'est pas souvent soulevé chez Descartes, c'est que, en fait, il reconnaît l'hétérogénéité des systèmes cognitifs. C'est peut-être...
Ça, on est entièrement d'accord. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus dense, c'est beaucoup plus riche, et surtout qu'on va le retrouver dans son traité des passions. Il va analyser les passions de façon assez complexe et très riche. Je crois que ça, on est entièrement d'accord. Évidemment, on simplifie le dualisme classique qui est associé. Voilà, c'est un peu injuste. Par contre, je parle, si je me permets une minute, qui peut être, c'est-à-dire que la thèse cartésienne, surtout dans les passions, quand même, avec la glande pinéale, c'est assez intéressant parce qu'elle est indicative et pertinente pour nous aujourd'hui. À chaque moment, on a découvert quelque chose qui était essentiel. À l'époque, c'était le cœur qui était le siège des passions. Lui, on va dire, c'est le cerveau avec glande pinéale. On va émerger une réaction extrêmement puissante de l'autre côté. On va voir émerger, par exemple, au XVIIe siècle, le culte du Sacré-Cœur. Il n'est pas médiéval, il est en réaction aux thèses de Harvey et de Descartes. Et au fur et à mesure qu'on va passer vers le cognitivisme, on va trouver une réaction qui va retrouver des choses un peu archaïques. Et avec la robotique et ce qui nous intéresse, on va être dans cette dynamique de va-et-vient sans cesse.
Je voulais ensuite poser une question à Anna Starobinette sur justement le rapport aux machines. Est-ce que d'une certaine manière, les machines, puisque parler des voitures ou autres, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de... quand on donne un esprit aux machines ou un rapport aux machines, un aspect de folklore, de reconstituer des êtres surnaturels mais qui sont construits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça ? Parce que les Japonais, il y a un aspect, le kami, c'est ça. On peut attribuer un esprit aux choses. Pour dire, par exemple, au Japon, il y a un kami du peigne. Donc un esprit, on attribue un esprit au peigne. Donc est-ce qu'il n'y a pas du surnaturel dans les machines ?
Ну, лично я, кстати говоря, имела такой опыт в Японии, в результате которого мне показалось, что там наделены душой даже унитазы. Я имела дело с унитазом, у которого было 24 программы, и, в общем, я проиграла в борьбе с ним, то есть он мне хотел предложить такие вещи, которые я даже не знала, ну, как я могу вступить в такие отношения с унитазом.
Alors, personnellement, moi, j'ai eu un peu cette expérience au Japon où j'ai découvert des toilettes assez particulières où il y avait 24 programmes. Donc, effectivement, comme si un esprit habitait ces toilettes, j'ai dû me battre pour essayer de comprendre comment j'allais l'utiliser.
Безусловно, я... Мне кажется, я не одна такая. То есть, сущности... даже если они механические, которые значительно превосходят меня умом и талантом, я автоматически, интуитивно наделяю душой.
Mais je ne pense pas être la seule. Effectivement, les choses assez mécaniques, de moi-même, je leur apporte en fait un esprit. Ce n'est pas juste une machine pour moi, voilà, tout simplement.
Если они значительно умнее меня.
Ah, oui. Si elles ont l'air d'être plus intelligentes que moi. Voilà.
Но, конечно, это две разных плоскости восприятия. С одной стороны, я нахожусь в здравом уме, и я понимаю, что это просто машина, да, предмет. С другой стороны, они, конечно, занимают такое уже сейчас пространство в нашей жизни. Мы с этими машинами вступаем в такое количество отношений, и они нам... мы от них ждем, мы доверяем им настолько, мы ждем от них помощь такого масштаба, что, безусловно, мы автоматически, интуитивно уже относимся к ним, ну, не совсем, не просто как к металлу и там проводам.
Donc c'est vraiment, voilà, il y a deux aspects. À la fois, je comprends tout à fait que c'est une machine et que je n'ai pas un être humain en face de moi. Et en même temps, elles prennent tellement de place dans nos vies aujourd'hui. On a vraiment un lien avec elles. On leur fait confiance, on attend d'elles leur aide. Donc, intuitivement, en fait, je n'ai pas juste l'impression d'avoir une machine avec des fils électriques devant moi. Quoi.
Comment c'est le statut de ces machines ? Est-ce que c'est... des animaux, et des êtres humains ou quelque chose de différent, de supérieur.
Ну, они воспринимаются как наше продолжение. As if they were our extension. But if something is your extension and you are a human being, then you somehow perceive the machines also as a bit humanic.
Ensuite vers Anne-Lecky sur le fait que si on regarde dans les films hollywoodiens GSA, les machines sont dans une relation conflictuelle avec les humains, il y a une sorte de concurrence et d'une impossibilité de coexistence avec les humains et surtout entre des esprits qui sont finalement similaires. Or dans les chroniques du Raj, donc votre trilogie, c'est comment justement est la nature de l'opposition entre les machines, les intelligences artificielles et les humains ou le vivant.
So I feel like a lot of times that story where humans and machines are in opposition is an expression of our anxiety about being able to control them, and to some extent that has to do with our anxiety about being able to control other people in the world, other groups of people. So in a large part, I think those stories aren't actually stories about machines, they're stories about social situations that we have existing. I think even if you don't sit down to write the story that way, it comes out of those anxieties. But also, I feel like very often we divide thinking and feeling as though they're two different things. That response to machines where we treat them like people, that's an emotional response. But instead of thinking about emotion as being irrational and somehow contaminating our pure thought, I think that emotional response is a very important part of the way that we think, that that logical cognition and that emotion, they work together so that we can respond appropriately to a lot of different situations, and especially in a crisis. And so I tried to, instead of looking at it as, oh, the machines are dangerous because we're anxious, but why are we anxious? And is it really true that the machines are dangerous? I mean, they have a lot of cultural impacts that might have negative impacts down the future. But is it really bad? Machines have made our lives much, much easier. I can text my daughter if I'm worried that she's late, and she can text back saying, oh, class just ran late, and I'm talking with a friend. And I go, oh, okay, she's safe. And that makes my life a lot easier. Or if I'm in danger, it's easier for me to contact someone. It's so much easier to do daily things having all these different machines. And of course, that leads to a lot of anxiety. What if they stop working? What if, and I'm thinking, of course, they want to do it, right? What if they stop wanting to do those things? Suddenly my life is completely different. But it seemed to me more interesting to think about the positive of that. How is that relationship a good relationship?
Et pour revenir précisément à vos romans, vous avez quelque chose de précis sur le rapport entre vivant et intelligence artificielle, sur les machines, etc. Est-ce que vous pouvez préciser un peu comment vous avez fait la différence de statut?
I'm actually not sure how to make the status different, and so in my books I kind of cheated because I wanted characters who were artificial intelligences, but I also believed that emotion is an important part of thinking, and that if we're ever going to have really complicated artificial intelligences like we imagine in science fiction, they're going to have some kind of a system that's like emotion, even if it's not our emotions. And the more I looked at emotions and researched into it, the more that I saw that our emotions are a very physical thing. They're a physical experience. They're physical reactions that our bodies have. Neurotransmitters will trip particular physical states in our body. And so if you don't have a human body, you don't have human emotions. You have a different set of emotions. And then I said, well, I have to make a character feel these things in a way that I understand it and in a way that my readers understand it. So I cheated and made my artificial intelligences have human bodies as part of how they're made up. And in a very terrible way, they're prisoners of war that have been slaved to the artificial intelligences and had their identities stripped away. But it also means that my characters who are computers can have very human reactions to things. And part of that also, not just my cheating, but it's also very hard for me as a human. Where do I draw the line? How do you decide who's human and who's not? What's an animal and what's a machine? We're all machines in the end. How are we different from these other machines? And it seems easy to draw the line until you keep looking closer and closer, and it gets more and more difficult to make a line anywhere.
En continuant sur la question de l'esprit, je voulais poser la question sur l'esprit que l'on confère aux machines, puisqu'on a tous dit que finalement on conférait un esprit aux machines. Est-ce que c'est parce qu'elles sont comme nous ou qu'elles agissent comme nous? Là, je vais poser aussi aux chercheurs la question du... Voilà, quel processus pour qu'on attribue finalement un esprit aux machines?
Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect auquel tout le monde pense spontanément, qui est l'aspect de projection. Donc dans l'aspect de projection, par exemple, on sait à peu près quels sont les éléments qui sont plus décisifs pour faciliter cette projection. On sait que ça n'est pas l'apparence générale, mais ça peut être par exemple quelques traits relativement minimaux du visage, donc les yeux en particulier. Et d'autre part, il y a la dynamique d'interaction. Donc ça, c'est ça qui nous... C'est la première dimension, ce que nous, on projette sur les machines. Mais je crois qu'il y a un deuxième aspect dont on tient moins compte et qui est peut-être plus intéressant encore, qui est comment les cultures, les sociétés utilisent cette faculté de projection qu'on a tous et la transforment en des choses très différentes. Et c'est là où, par exemple, c'est pas la même chose d'utiliser la même capacité de projection pour faire des représentations qui vont être des représentations de divinités ou pour faire des robots qui vont être des sortes de représentations de personnes. Je peux aller plus loin, mais voilà.
Si, parce qu'on en avait discuté avant pour préparer la communication. Et alors, juste pour dire sur la question du rapport entre le robot et l'humain, il existe un roboticien japonais qui s'appelle Ishiguro qui a créé des géminoïdes. Donc, c'est des robots qui ressemblent quasiment, des visages de cire qui ressemblent le plus possible à un être humain. Et il y avait des recherches comme ça qui ont montré que il suffit que le robot, même s'il y a une interaction minimale, vous regarde pour qu'on lui attribue une présence. Donc, je vois que Milad veut réagir sur le fait que la machine qui nous regarde fait qu'on lui donne un statut, une présence où elle existe.
Je crois, tout d'abord, effectivement, la notion du visage est essentielle, comme on vient de l'évoquer. En tout cas, il y a eu de très grands sociologues, je pense surtout à Zimmel, qui a travaillé, il a essayé de déchiffrer comment dans la rue, à la fin du 19e, début du 20e, les gens s'identifiaient, s'interprétaient avec ce regard très très rapide, furtive, et ont constitué une notion d'altérité et de l'identité. Il se trouve qu'avec la robotique, quelque chose a changé à mon avis. Ce que vous venez d'écrire, l'expérimentation, moi je crois, on s'est rendu compte d'une façon presque inconsciente que les robots sont des êtres culturels, mais des êtres. Quoi, c'est ça ce qui est important. Alors, être veut dire autre chose en Inde, au Japon, en Chine, en Malaisie. Nous, en Occident, comme vous l'avez évoqué, on avait quand même une obsession héritée de la Bible et de la Genèse, du golem, des rivalités impossibles à surmonter entre le Créateur et sa créature, des jalousies, ainsi de suite. Mais c'est très limité. C'est pas le seul récit qui existe sur la création, ainsi de suite. Mais moi, je crois ce qui est important, c'est cette dimension d'être culturel et qui peut aller très, très loin. C'est pas juste une machine à vapeur, mais avec les choses qui sont un petit peu animées. Et l'autre dimension qui me semble importante, et ça on peut retrouver ce qui a été dit par les auteurs également, c'est qu'il me semble que vous avez prononcé plusieurs fois le mot vivant, parce que je trouve très intéressant, je vais citer la définition parfois problématique pour certains, celle de Simondon, c'est que l'artificiel c'est du naturel suscité. C'est très intéressant. Et là on a un autre regard. On n'est pas dans des dichotomies, on est plutôt dans d'autres modalités d'interactivité. Je crois que c'est beaucoup plus pertinent de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Oui, Denis Villard.
Non, simplement pour un peu préciser un peu la même chose, c'est-à-dire d'une part, enfin pour aller tout à fait dans ce sens, il faut voir par exemple sur la question du regard dont vous parliez, par exemple en Inde, aller dans un temple, c'est se faire voir du dieu. Ça s'appelle darshan. Donc, ça fonctionne tout à fait comme ça. Et ce n'est pas différent avec les robots. Mais il me semble que, en fait, la clé pour voir ce qui se joue avec les robots, nous, comme ça, c'est de distinguer la notion de personne, la conception qu'on se fait d'une personne avec la notion d'humain. C'est-à-dire que nous, et alors là, je dirais, ça, c'est quelque chose qui nous distingue de ce point de vue, au-delà de Descartes, au-delà de ça, culturellement, de beaucoup d'autres sociétés, de beaucoup d'autres époques, c'est qu'on a beaucoup rabattu l'idée de personne avec le fait que les seules personnes qui comptent, les seules qui existent, ce sont les humains, tout le reste ne sont que des objets. De ce point de vue, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du Japon, c'est pas le Japon qui est exceptionnel, c'est nous qui sommes exceptionnels. Dans toutes les autres cultures, et dans notre culture à d'autres époques, la notion de personne est beaucoup plus large. Elle inclut éventuellement des animaux, elle inclut des objets, etc. et tout. Et d'une certaine manière, enfin moi, mon hypothèse, c'est que aujourd'hui, du fait de la robotique, mais c'est, là, c'est, ça pourrait être autre chose, en fait, on revient à redistinguer à nouveau, à avoir une conception de la personne, et on va avoir une conception de la personne qui sera plus large que celle des humains.
Une sorte d'hétérogénéité.
Voilà. Par exemple, simplement, quand on voit nos robots humanoïdes, en fait, ce sont des conceptions... Ce sont, les gens les traitent comme des personnes, mais des personnes moins intéressantes, moins riches, moins complexes que des humains. Mais on retrouve une catégorie plus large. Et il faut savoir, enfin c'est un trait là, simplement de biologie classificatoire, que en fait Homo sapiens c'est la seule espèce qui est représentée par un genre unique. Vous savez, c'est ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans la préhistoire et qui n'est le cas apparemment d'aucune autre espèce. Voilà, donc quelque part on revient à quelque chose de plus large, pour le meilleur et pour le pire, je crois.
Je posais une question pour les deux auteurs sur justement ce qu'on peut imaginer de la coexistence de l'avenir de notre société si on considère l'hétérogénéité des systèmes et non plus uniquement l'humain comme le centre unique de l'esprit. Qui veut...
I think we already coexist. It's not the future, actually. The future is already here.
Mais les conséquences, si on continue à développer des machines, parce que pour l'instant, on a finalement une coexistence, on n'en a pas conscience qu'on coexiste. Est-ce que va-t-il arriver le jour où on aura conscience tous que la coexistence est là? Est-ce que ça va changer notre rapport aux machines?
Well, me personally, I'm not very optimistic about this, and I see some kind of danger in this because when you interact with something that is much more powerful and much more smarter than you are, because we are not all programmers. We deal with those machines, but we can't really rule them. It is the opposite. We obey some rules which those apps, different mobiles, phones, computers give us. For instance, social networks we use, they give us rules how to interact between each other. We nowadays stop communicating between each other. I mean, we humans stop to communicate in some old-fashioned way, like it was in the 19th century, in 18th century. And Facebook has his own vision of how we should interact. So when I thought about that, about some projection to the future, I imagined, and I wrote about that in Le Vivant, that in some very, very far future, all the humanity is going to be connected by some kind of brain network and become one creature, like ants. So they would be, in a way, immortal, because each person would be one little cell of that one creature. But it would be kind of totalitarian system.
I'm kind of interested in the idea, and I've heard it often expressed, that the machines are smarter than we are, and of course, as they develop more, they will be smarter and more powerful than we are. And that would be super dangerous, I would agree, except for a couple of things, one of which is we're not even sure what smart means. When we say someone's intelligent, what does that mean? Somebody might be very good at one thing and not so good at something else. Someone else might not do well on tests, but they're fabulous at playing the piano. What do we call that smart or not call that smart? We're not really sure what it means to have consciousness or to be intelligent. Our phones... They're smart in some ways. My phone can tell me when it's time to go do something, and all kinds of other functions like that. But I can't sit down and talk to it about how I feel It's not very smart about that at all. It's working in a very sort of mechanistic. The algorithms it's using are very simple. It's not flexible. A while ago, there was an understandable, legitimate excitement about the computer that could play Go, that could beat Go champions, and that's really amazing. But unless that computer is going to rule us all by beating us in games of Go, we're not in any danger from that computer. And so I do think it's important to think about the implications of what the impacts machines are having. The impact that social networks have on us is huge, and we really do need to think about that. These very simple things that our phones do are really affecting our lives in huge ways, but it's not necessarily because they're smarter. And I'm not sure if we'll ever even know if it's possible for a machine to be smarter until we even know what it means to be intelligent.
Peut-être. Non, là, j'ai une réaction vive, comment dire, parce que je pense que c'est, et je vais peut-être dans le sens de ce qui vient d'être dit, par rapport à la question, je pense que c'est vraiment un terrible préjugé de penser que les gens ou les choses les plus dangereuses sont les plus smartes. Je pense que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Souvent, les choses les plus dangereuses et les gens les plus dangereux sont pas les plus intelligents. Donc ça c'est peut-être mon point de départ. Mais pour répondre en fait à votre question dans le fond, enfin comme ça, sans poser mon point de vue personnel, je pense qu'il y a vraiment deux réactions qui s'opposent, par exemple chez les roboticiens. Il y a une espèce de doxa un peu officielle qui consiste à dire qui repose sur les travaux de Turing et d'autres, et qui est au fond l'idée que peu à peu on aurait une dissolution de la différence entre d'une part les humains et d'autre part les machines, et que c'est ça qui est en gros à la fois le plus redoutable. Et puis il y a une autre réaction qui est aussi bien avérée historiquement et dont mon voisin a parlé, qui est de constater que chaque fois qu'on fait un progrès avec une machine, nous, on trouve un moyen de penser qu'au fond, elle reste complètement idiote, enfin, là, de ce point de vue. Et alors, on a eu un exemple très spectaculaire il y a relativement peu de temps avec le jeu d'échecs, avec le Go, où on sait très bien que dès que les machines se sont mis à gagner aux échecs, dans les 5 minutes, tout le monde a dit mais ça, il fallait vraiment être des hommes, des intellectuels idiots pour penser qu'on est intelligent parce qu'on gagne aux échecs. Ce qui compte, c'est l'émotion. Alors maintenant, on essaie de faire des machines émotives, mais on va trouver autre chose. Là, je crois qu'il faut avoir confiance. Voilà.
Oui, j'aimerais bien réagir parce que tout d'abord, il me semble, ce qui a été dit, Turing a les deux positions, c'est très intéressant. Il a la machine qui est celle des permutations et la machine enfant inscrite dans un milieu qui apprend et qui va évoluer, ainsi de suite. Bon, mais pour répondre à la question, juste comme un scénario comme ça, il me semble, ce qui est peut-être intéressant, c'est d'imaginer un espace de cohabitation au moment où les soi-disant machines intelligentes, entre guillemets, je vais revenir sur ce terme, commencent à produire des machines intelligentes de façon autonome. Ça peut être intéressant comme scénario. Évidemment, il y a beaucoup de romans de science-fiction qui racontent ça. Mais puisque mon voisin avait évoqué que ce n'est pas toujours les gens plus intelligents, je suis rappelé un livre quand même qui a eu une histoire très intéressante, en tout cas en France. C'était le premier Nobel français en médecine, Richer, qui était un raciste, eugéniste, pas possible, qui a toujours des lecteurs très importants dans certains cercles transhumanistes, qui a fait un livre qui mérite d'être relu, « L'homme stupide ». Et qui va essayer de démontrer les degrés de stupidité de l'humanité au fur et à mesure. C'est assez intéressant de revenir ces oppositions, surtout en reprenant les étymologies d'idiot et stupide. Il y a pas mal de choses à raconter dans, historiquement, surtout idiotesse en grec. Mais je crois, il y a évidemment, on a une idée que les machines intelligentes, et surtout ce qui a été évoqué en anglais, c'est très intéressant. Smart, c'est pas intelligent, c'est futé, c'est complètement autre chose. On a traduit par ville intelligente, machine intelligente, et c'est pas la même chose. On est sur des registres vraiment, vraiment différents. Et du coup, il y a quand même une surinflation du mot intelligent et intelligence associée au numérique, au digital et ainsi de suite, qu'il mérite de revisiter. Et pour terminer, puisque ce nom a été évoqué, Turing, qui est considéré, etc. Si on relit son texte 1950, Computing Machinery and Intelligence, le mot ne paraît que dans le titre. La notion ne l'intéresse pas. Il parle de thinking machines. les machines pensantes. C'est complètement également autre chose.
Yeah, I think that's a really good point about assuming that intelligence is dangerous. And also assuming that, you know, looking very carefully, well, who's smart and who's not, as being an important distinction, is really toxic, right, historically. But it's also very interesting to me very often in, like, science fiction stories, when you have the person who has all their emotions stripped away and they're super intelligent, they're always mean. They're always completely selfish. And that's kind of alarming to me, the idea that what super smart means is that you're really selfish and you're a sociopath. And really? I mean, that's what smart is? I think that says something interesting about how we as a culture think about what it means to be smart.
Okay, I agree not to use the word smart, but we can use, like, who has the information. The machines, they have lots of information. As they progress, because we make more and more quick machines, machines that can operate more and more information, we ourselves we regress, because something is really happening with our memory right now, not in the future. Because there are scientific researchers which prove that nowadays the memory is human memory. Doesn't work the same way it worked 100 years ago, because we have problems with remembering numbers, dates, things, because we always can Google it. It is really the problem. Another problem is with attention, our attention. We can't concentrate on things because we have many, many sources of information, and this information is overwhelming. We can't cope with it. So we can't concentrate, we can't remember things, we regress, they progress.
And you make a very good point about that, and I would mostly agree. I think it's intensified from what it used to be, but I also feel like that was the sort of thing people said when writing began to be invented. And people would say, well, people are getting stupid because you don't just memorize the history of this. You can go look it up in the book or on the clay tablet. And I'm not saying that it's not. Ultimately, we do need to pay attention to that, but I feel like every new technology has had people saying, well, this is going to be a disaster. Trains in Europe, and people would say, human beings weren't meant to go that fast. I think in Britain they had a thing called railway spine, right? That was an injury that would happen to you for going more than 30 miles an hour, which isn't to say that actually railroads did some damage to the environment and really changed patterns of living in ways that maybe weren't good for everybody. So it's important to look at that side of it, absolutely.
Oui, là, je crois, sur la question de la mémoire, je suis en désaccord, parce qu'il me semble on a confondu la mémoire informatique numérique stockée avec la mémoire humaine. Peut-être une façon très simple pour le dire, les roboticiens, des gens extrêmement doués, n'arrivent pas à programmer l'oubli. On peut programmer énormément de choses, mais il est extrêmement difficile, presque quasiment impossible à ma connaissance actuellement, de programmer l'oubli. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que l'oubli, du point de vue de la machine, c'est une faille ou une perte. L'oubli, du point de vue de la mémoire humaine, c'est quelque chose qui est reconstruit et qui est réactivé et qui est dans un milieu et un contexte extrêmement différent. Par contre, on a eu tendance, je crois, à confondre la mémoire de réseau avec la mémoire humaine. Je crois que c'est important de les distinguer.
Comment justement préciser cette différence à ce moment-là ?
C'est-à-dire là, c'est un cumul qui est sur un modèle hiérarchique de stockage, d'accès à l'information, alors que la mémoire humaine, elle est extrêmement dynamique. Vous pouvez oublier quelque chose pendant 28 ans, ça peut vous revenir avec, mais ce n'est pas la même chose qui est retirée, c'est autre chose qui est recréée. Et ça, tous les spécialistes, les médecins, ceux qui ont étudié la mémoire humaine, nous expliquent que c'est un autre phénomène. Et du coup, avec le code aujourd'hui, on n'a pas la capacité de programmer quelque chose de l'équivalent de l'oubli. Il y a beaucoup d'efforts parce que c'est très important du point de vue de la pratique, mais c'est une distinction très très radicale à mon avis.
Autre chose ou juste si j'ai un petit truc avant de donner la parole à la salle. Dans un article du Monde d'aujourd'hui, on peut avoir accédé aujourd'hui, on parle le problème du deep learning. On a parlé d'AlphaGo, etc. C'est que il y a une opacité. Et donc la question des chercheurs, c'est qu'il se passe un processus, mais on peut pas. Et donc, est-ce que l'esprit est pas dans cette opacité ?
L'esprit des machines, on va dire. Non, on parle de l'apprentissage profond non supervisé. parce qu'il a des apprentissages supervisés, on sait très bien que voilà, l'apprentissage non supervisé, on a des variables relativement souples, puis après qui vont se complexifier, et du coup on ne sait pas ni comment ni quoi ça va apprendre. Moi, à mon avis, je trouve que c'est fabuleux. J'ai pas le scénario du golem qui me fait peur. J'ai pas peut-être ce fardeau derrière. Par contre, je crois, on peut arriver à des résultats ou bien surréalistes du point de vue esthétiquement fascinant, ou bien parfois pervers. Peu importe, on ne sait jamais. Mais qui ose ne gagne pas, je dirais.
Et moi, je suis tenté de répondre enfin, à cette question de l'opacité en anthropologue, c'est-à-dire reprendre un commentaire qu'on avait fait avant. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que les humains ont aujourd'hui la machine la plus extraordinaire ou l'entité qu'ils ont inventée la plus opaque au monde, et ça dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés, il y en a plein, c'est les dieux. C'est les esprits. Dans des cultures où les dieux et les esprits, ou pour les gens pour lesquels cela a une réelle importance, ils sont habitués à être confrontés, pour le bien et pour le mal, à une très très grande opacité. Et que par rapport à ça, une machine est très peu opaque par rapport à n'importe quelle petite divinité qu'on peut trouver dans l'Himalaya. C'est un peu une boutade, mais...
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Voilà.
Bonjour, Dobrydien, Anna. Alors, ma question est celle-ci. L'homme, ce qui définit pour moi l'homme, c'est la compassion. Alors, l'exemple contraire, c'est quand les nazis, par exemple... ont envahi l'Union soviétique, la première chose qu'ont fait ces nazis, c'est détruire, éliminer, exterminer des enfants d'une colonie de vacances de Moscou qui était près de la frontière. Donc la compassion, pour moi, c'est la notion fondamentale dans l'humanité. Et là, avec les nazis, on a l'inverse, absence totale de compassion. Donc les nazis, les fascistes, les gens totalitaires, ne sont-ils pas des machines mortifères, des machines exterminatrices ?
Qui veut répondre ?
Ouais. Non, je ne vais pas répondre parce que c'est une question trop grave, mais juste par une anecdote, c'est-à-dire parce que j'ai travaillé chez Madame Tussaud, parce que je m'intéressais à l'interaction des gens avec les mannequins chez Madame Tussaud. Et alors, les gens chez Madame Tussaud, personne ne confond, ou bien vraiment si c'est l'obscurité, ou etc., une figure de cire avec un être humain. Par contre, il suffit que les gardiens se figent un instant et les gens ne savent plus s'ils ont affaire à un être humain ou à une machine. Donc on est actuellement, on est bien meilleur, effectivement, et c'est peut-être le sens de ce que vous disiez, on est bien meilleur à être, en tant qu'être humain, à se comporter comme des machines, qu'à faire des machines qui se comporteraient comme des êtres humains. Je ne sais pas si c'est une véritable réponse à votre question, mais c'est une façon de l'aborder.
Aniki?
I think that sort of the flip side of that connection with machines where we see them as people is that things that we don't have a connection with, we don't see as people. And sometimes that extends to other human beings. Our deep connection with our friends, I'm sure this does not redeem them in any way. Those Nazis were probably fabulous to their families and to their friends and had a lot of empathy for them. But for whatever reason, which would be complicated and disturbing to go into here, they didn't have that empathy. They didn't have that connection with those other human beings. And I'm not sure it has to do with the line between human and machine as much as it has to do with where people are capable of drawing that line with beings they have a connection with and have some kind of empathy for, and how easy it is for them to put other human beings on the other side of that line.
Oui.
But I think when we deal with machines, we don't really expect that much compassion from them. When we go to the doctor whom we don't know at all, we don't really expect compassion. We expect help and some politeness. But if the doctor doesn't know us personally, he wouldn't be you know, very sorry about our heart illness. The same with the machines and robots. We expect help and we expect some politeness, so they wouldn't wound us or hurt us. But there is another side of this coin. There is a wonderful novel, which I think everyone knows. I'm not sure about the English translation. Do the androids dream of...
Androids dream of electric sheep?
Yeah, of electric sheep. Where the question is... where the question is not about about human, but our compassion for robots. And that very doubtful distinction between anthropomorphic robot and human being itself. Because do we have compassion to them? That's also the question. Maybe they need it.
Non, c'était aussi une toute petite réaction viscérale pour dire que personnellement, j'attendais beaucoup plus de mon docteur. J'attendais de l'empathie, pas seulement de la politesse et de la compétence. Aussi, mais j'espère de l'empathie.
Une autre question ?
Oui, je voulais revenir aussi sur la question de l'apprentissage et de l'apprentissage non supervisé des robots. Parce qu'actuellement, les machines, donc on a des interactions qui sont fixes avec les machines, mais c'est des interactions qui ont été programmées par des ingénieurs, des développeurs. Donc c'est quelque chose où il y a quand même déjà un humain à l'origine de la codification de l'interaction. Mais on le voit avec des films comme Her, comme Aye, ou même dans les séries japonaises comme Ghost in the Shell, où là, c'est les robots développent leur propre intelligence et on perd ce côté supervision. Et est-ce que ça ne va pas aboutir à une autre compréhension, enfin, à une autre relation à la machine ?
Qui veut répondre ?
Oui, ça, on a le scénario qui se décline dans plusieurs versions, c'est-à-dire c'est les machines, on va dire les robots, qui apprennent d'eux-mêmes et qui, évidemment, ça va nous dépasser à cause de leur capacité. Puis après un certain temps, moment, etc., leur lien avec l'humain devient le moins intéressant parce qu'on n'a pas la vitesse, la capacité, ainsi de suite. Effectivement, c'est possible. C'est une variation, on va dire, un peu pas trop... forte de quelque chose qu'on connaît depuis longtemps dans les discours, en tout cas théoriques, qui commencent avec les années 50 de la théorie de la singularité après von Neumann, et qu'aujourd'hui on peut la retrouver avec les transhumanistes dans plusieurs versions, que ce soit du côté Gurzweil ou d'autres. À mon avis, c'est possible, mais je crois que ce qui est tout à fait intéressant, les exemples que vous avez cités, Her, ainsi de suite, Aya, c'est toujours insertion, relation amoureuse, passionnelle, dans une famille. On va retrouver toujours une certaine forme de sociabilité jusqu'à un certain moment, ou bien il y a une intégration, un rejet et sortir de là. Je crois que ce qui se raconte, en tout cas, c'est notre incapacité à accepter une altérité qui nous ressemble. Et on a des problèmes avec ça. On a extrêmement de la difficulté à l'accepter. Si elle nous ressemble à être comme nous, et on se rend quelque chose, elle n'est pas comme nous, sauf jusqu'à un certain moment. Et là, on a des scénarios pareils.
Oui, quelqu'un d'autre ? Bon, une autre, ou alors à ce moment-là, une autre question, s'il y en a ?
Bon, peut-être. Simplement de dire que, par exemple, dans le robot qu'on a conçu comme ça au musée du Quai Branly, ce qui fascine les gens, c'est justement cette altérité. C'est le fait, c'est pas le fait que c'est le fait que ce soit une machine, mais qui, par certains aspects, réagit d'une façon qui nous intéresse. Donc, c'est pas du tout que les gens pensent. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qui intéresse les gens, c'est pas qu'ils soient comme un humain, mais qu'ils soient une machine qui fasse des choses comme un humain. C'est un peu différent. C'est là où est le. Je crois que c'est le même point.
Oui, plus de questions. Ah, encore une dernière question. Là. Bon, ça sera la. Tant pis.
Voilà, par rapport au film de Daryl. Où justement c'est un enfant soldat mais robot qui subit l'altérité avec d'autres enfants de son âge. Ce qui est intéressant, c'est que les adultes qui l'ont accueilli comme un enfant, à la fin, ont des sentiments de parents-enfants envers ce robot, sachant qu'il est robot. Comment vous l'interprétez comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, justement à toutes ces questions qu'il y a eu pendant la conférence?
Qui veut répondre?
On peut tous répondre, à mon avis. On a domestiqué tellement de choses, d'animaux, de poupées dans notre histoire et dans nos vies, c'est pas nécessairement surprenant. Mais pour peut-être tourner un petit peu les choses, je rappelle quand même dans le texte de Turing, quand il décrit les deux variations, le modèle qui l'intéresse le plus, c'est la machine comme un enfant qui va apprendre. Et la question qui va se poser de façon très très importante, à mon avis, qui est toujours avec nous aujourd'hui, si on accepte ce modèle de comparaison de la machine pensante, pas nécessairement intelligente, à l'enfant qui évolue et qui apprend, à quel moment cette machine va avoir quelque chose comme la personnalité unique qui va la distinguer des autres, mais lui permettant de fonctionner dans le milieu social.
Il y a même des recherches, on essaye de créer des histoires personnelles aux robots.
Exact. Et on est en train de reproduire le scénario de Turing. Et ça, c'est des questions qui sont très, très passionnantes.
Par exemple, c'est juste un petit détail. Par exemple, les robots qu'on fait, le robot qu'on fait a une histoire de ses goûts qui est singulière. Donc, par exemple, si on le fait marcher plusieurs fois avec une nouvelle mémoire, on a l'équivalent de chacun des robots à des goûts différents. Alors, ça pose des tas de questions ensuite dont on ne peut pas parler, ouais. Mais il y a cette singularité.
Bon, il est 13h, c'est la fin de la table ronde. Je rappelle que tous les participants sont en dédicace dans l'heure qui suit. C'est comme ça pour tout le monde, tous les auteurs. Je vous remercie.